Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de Contact. Avec Zone de Contact, les problématiques actuelles de la géopolitique mondiale n'auront plus aucun secret pour vous. Au menu de cette émission, notre revue de presse s'intéressera à Emmanuel Macron et ses rapports avec le Venezuela, ainsi qu'aux capacités de l'armée française, aux élections de mi-mandat aux USA et aux rapports entre Washington et Kiev. Face à l'aube de l'émergence d'un monde multipolaire, quelles perspectives s'offrent à l'Afrique ? Différentes personnalités vont se succéder aujourd'hui au micro de Zone de Contact pour y répondre. Le Zimbabwe accueillera le Musée de la Libération africaine. Nous y reviendrons avec Kwame Muzawazi, directeur de l'Institut des études africaines. Enfin, nous ferons un tour en Côte d'Ivoire pour parler du problème de la consommation de drogue et des méthodes de réinsertion des toxicomanes dans la société. Restez à l'écoute, ce sera un voyage informatif. On commence par les relations entre Kiev et Washington. Le chef du mouvement français Les Patriotes, Florian Philippot, a passé au crible les dernières infos et considère que les États-Unis commencent à se fatiguer du président ukrainien Zelensky. L'homme politique en est convaincu. Washington se débarrassera de leurs pantins quand ils n'en auront plus besoin. Florian Philippot appelle Zelensky à arrêter ses caprices et à entamer des négociations, assurant que l'Europe ne va pas non plus se suicider pour lui. Cette analyse fait suite à un article du Washington Post. Ce dernier a révélé que l'administration Biden encourageait en privé les dirigeants ukrainiens à au moins se montrer ouvert à négocier avec Moscou. En effet, Kiev refuse publiquement d'entamer des pourparlers. Toutefois, pour le média, il s'agit plus d'une tentative calculée de Washington afin que l'Ukraine puisse continuer à conserver une position morale supérieure aux yeux de ses sponsors occidentaux dans un conflit qui s'éternise. Il ne s'agirait donc pas d'un retour à la table des négociations pour mettre fin au conflit. Ces discussions montrent que la position de l'administration Biden sur le dossier ukrainien est devenue complexe à défendre. Les responsables américains soutiennent publiquement Kiev en distribuant des aides financières importantes et des armes. La résolution du conflit tarde à venir, mais fait également peser un lourd tribut sur l'économie mondiale. Les sondages montrent une érosion du soutien des démocrates au sein des USA pour continuer à financer l'armée ukrainienne. Washington doit en outre faire face à la réticence des pays émergents à soutenir l'Ukraine. L'Afrique du Sud s'est abstenue lors d'un récent vote à l'ONU visant à condamner le rattachement de la Russie des régions de Kherson et de Zaporogé, ainsi que des républiques de Lugansk et de Donetsk. Elle a affirmé que le monde devait plutôt se concentrer sur la facilitation d'un cessez-le-feu et d'une résolution politique. Pour le nouveau président du Brésil, Lula da Silva, la responsabilité du conflit incombe également à Volodymyr Zelensky. Le premier ministre indien Narendra Modi, qui tente de rester neutre, a proposé son aide pour la tenue de pourparlers de paix. Toutefois, l'offre a été rejetée par le dirigeant ukrainien. Quant à la Turquie, qui est très active sur le front de la médiation depuis le début du conflit, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la crise ukrainienne signait l'échec des institutions internationales, notamment de l'ONU. On poursuit avec Emmanuel Macron, qui a eu un échange bref avec le président vénézuélien dans les couloirs de la COP27 en Égypte. Sur la courte vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on entend le président français dire qu'il serait heureux s'il pouvait échanger plus longuement avec son homologue du Venezuela et d'engager un travail bilatéral utile pour la région. Cependant, le fait marquant de cette discussion est l'utilisation du terme « président » par Emmanuel Macron à l'égard du chef d'État vénézuélien. En effet, la France jusqu'alors n'a pas reconnu Maduro comme président du Venezuela depuis sa réélection en 2018. Paris, comme l'UE et Washington, considéraient que l'opposant Juan Guaido était président par intérim. Ce changement de ton de la France à l'égard du Venezuela n'est pas anodin. Face à la crise énergétique causée par les sanctions anti-russes, la France lorgne sur le pétrole vénézuélien. Pour Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, cette rencontre amicale montre que le besoin de pétrole rend poli. Le changement de direction à l'égard de Caracas, qui peut sembler soudain, est loin de l'être. En juin dernier, lors du sommet du G7 en Bavière, la France avait parlé des ressources qui se trouvaient ailleurs, qu'il faut aller explorer en parlant du pétrole iranien et vénézuélien. Macron avait estimé que le pétrole vénézuélien devait pouvoir être remis sur le marché. On reste en France avec l'ex-général des armées Pierre de Villiers. Il a déploré que les forces françaises n'avaient pas les moyens de faire face à une guerre de haute intensité. Selon le général, le budget de la défense est insuffisant. S'il salue la hausse du budget alloué à l'armée de 1,7 milliard d'euros par an depuis 2017 et de 3 milliards pour 2023, Pierre Devilliers pense qu'il faudra aller au-delà. Il ajoute que la situation en Ukraine doit forcer la France à réadapter son modèle. Cela passe par la modernisation des forces, par une révision de l'aspect logistique et par une montée en puissance de l'appareil industriel. Il faut rappeler qu'en octobre dernier, un article du journal L'Opinion a révélé qu'en cas de conflit d'une intensité semblable à celui en Ukraine, la France pourrait tenir un front de seulement 80 km maximum, même si l'armée française est une armée professionnelle. Le service militaire y avait été aboli en 1996 par Jacques Chirac et certains y voient la cause de cette situation pitoyable aujourd'hui. On continue par un détour aux États-Unis. Le 8 novembre se sont tenues les élections de mi-mandat. Habituellement boudée par les électeurs, cette élection a été particulièrement scrutée dans le monde. Et pour cause. L'Ukraine était particulièrement préoccupée par une victoire républicaine qui changerait la donne en matière de soutien militaire. Sur les réseaux sociaux, l'image d'un flyer distribué par le Parti républicain a circulé. Sur ce document, il était incité à voter pour le candidat républicain afin de mettre un terme à l'aide militaire à l'Ukraine. Plutôt que d'envoyer de nouveaux financements, il était promis de protéger les frontières américaines et d'exiger des comptes à Kiev sur chaque dollar qu'il a reçu des États-Unis. Le 20 octobre dernier, le député de l'Indiana James Banks avait promis dans un tweet qu'en cas de contrôle de la Chambre des représentants par les républicains, les besoins de l'Amérique seraient prioritaires sur les besoins ukrainiens. Pour son collègue Marjorie Taylor Greene, même son de cloche. Elle a promis que plus un seul penny ne sera accordé à l'Ukraine en cas de victoire républicaine. Fait intéressant, le conflit commence à lasser dans le camp démocrate. Une trentaine d'élus ont écrit à Biden afin de le pousser à ouvrir des pourparlers directs avec la Russie. L'opération Barkhane, c'est fini, définitivement. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé. Lancée en 2014 sur les cendres de Sangaris et Épervier, elle était composée d'un contingent de 5500 soldats au plus fort du déploiement. Elle avait pour objectif de lutter contre les groupes armés terroristes en coordination avec des partenaires internationaux et africains. Toutefois, l'opération a pris du plomb dans l'aile. En février 2022, une réarticulation des troupes hors du territoire malien a été décidée et s'est conclue sur la rétrocession de la base de Gao en août dernier, après avoir été poussée à la sortie par les autorités maliennes au pouvoir depuis 2020. Désormais, qu'adviendra-t-il des autres bases françaises en Afrique? Outre celles stationnées au Burkina Faso, au Niger et au Tchad, on en trouve en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Djibouti et au Gabon. En Centrafrique, la mission Miss Log va prochainement aussi quitter le pays et le rapatriement en France du matériel a déjà commencé. Seule une poignée de militaires français restera en République centrafricaine dans le cadre des missions MINUSCA et de celle de l'Union européenne qui est actuellement suspendue. Du côté de l'Elysée, on a assuré que l'allègement du dispositif permettra d'adapter les bases pour réduire l'exposition et la visibilité des forces. Pourtant, des analystes lient ce retrait à l'échec de la politique africaine de Paris, d'où le sentiment anti-français grandissant sur le continent. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous êtes à l'écoute de Zone de Contact présentée par Spoutnik Afrique. Moi, Anthony Lefebvre, je salue ceux qui viennent de nous rejoindre. Pour rebondir sur l'opération Barkhane qui se termine, nous allons prendre la direction du Niger. C'est dans ce pays que la force Barkhane s'est redéployée après 9 ans de présence au Mali. Toutefois, la présence de bases militaires françaises au Niger est loin de faire l'unanimité. Pourquoi la force Barkhane a-t-elle fait face à une hostilité de la population locale? Pour mieux comprendre ce qui se passe au Niger, Michael Zodi va nous en expliquer les raisons de ce mécontentement. Il est militant, coordinateur régional de Tournons la Page, une coalition qui rassemble plusieurs ONG et qui milite pour le départ de Barkhane du Niger. Fin octobre, il s'est vu annuler son visa français par l'ambassade de France. Pour Zone de Contact, il raconte ses impressions et les raisons de son engagement contre la présence des militaires français dans son pays. Bonjour Michael. Pouvez-vous me raconter dans quelles circonstances vous avez appris l'annulation de votre visa français? Avez-vous pu savoir pourquoi cette décision a été prise à votre encontre?
Bonsoir, je m'appelle Michael Zodi, je suis le coordinateur national Tournons la Page Niger. Effectivement, j'étais dans mon bureau le 20 octobre passé quand j'ai reçu un courrier venant de l'ambassade de France faisant état de l'annulation de mon visa sans aucun motif. Après réflexion, je me suis dit, il faudrait envoyer un courrier pour savoir ce qui se passe. Mais malheureusement, à l'heure où je vous parle, je n'ai reçu aucune notification de l'ambassade de France par rapport à l'annulation de mon visa. Et en regardant, j'ai vu un journal français Le Monde où l'ambassadeur avait intervenu pour dire que je ne parle pas régulièrement en France pour des raisons professionnelles. Donc, du coup, ils ont jugé utile d'annuler mon visa. Ce qu'il faudrait retenir d'abord, Tournons la page est une organisation internationale, c'est un mouvement international dont nous avons notre siège au niveau de Paris. Donc régulièrement, nous nous rendons là-bas, le COPIL se réunit là-bas, donc nous nous rendons là-bas pour réfléchir et donner des orientations à notre mouvement. Quand je l'ai écouté, j'ai vu que cela ne tient pas la route, donc il faudrait chercher la cause ailleurs. Et je me suis rappelé qu'il y a eu une rencontre entre Macron, le président français, et les ambassadeurs, où les ambassadeurs ont été instruits à prendre toutes les dispositions, que ce soit sur les réseaux sociaux et sur les médias, pour empêcher effectivement tous ceux qui pensent que la politique française n'est pas la bienvenue en Afrique. La politique française n'est pas bénéfique pour le peuple africain. Donc, au-delà de ça, je vis aussi un autre activiste du nom de Nathalie Yamb qui s'est vu aussi interdit de séjourner en France. Donc, je me suis retrouvé dans ce lot-là parce que j'ai toujours été critique par rapport à la politique française. J'ai toujours été critique par rapport à l'installation des bases étrangères chez nous. J'ai aussi été critique par rapport à la non-transparence des accords entre la France et le Niger.
Cette interdiction de venir en France mettra-t-elle un frein à vos activités ?
Ce n'est pas une annulation d'un visa ou bien interdiction de séjour en France qui va nous empêcher de continuer la lutte que nous sommes en train de mener. Nous l'avons toujours dit, comparaison n'est pas raison. Quand vous regardez les pays colonisés par les Britanniques, vous allez trouver qu'il y a un semblant de développement. Mais chez nous, les francophones, jusque-là, on n'arrive pas à être souverain. Parce que toutes nos ressources, j'ai dit bien, toutes nos ressources sont en train d'être pillées par la France. Et nous ne sommes pas d'accord. Cette nouvelle génération-là, nous avons compris qu'il faut se battre. Et c'est pour ça que nous sommes en train de dire ce que nous pensons et nous sommes en train de nous mobiliser pour dire non à cette politique française-là. Aujourd'hui, la guerre au Sahel nous est imposée par des forces occultes et impérialistes. Parce que je considère que la France est venue en guerre de conquête. Macron premier voulait du Sahel sans les Sahéliens. Nous l'avons compris. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que des individus, des villageois qui ne connaissent rien en armes ni en guerre, viennent endeuiller, faire déplacer des populations et prélever l'impôt chez nous. Au moment où la force Barkhane est sur notre territoire, au moment où nos forces de défense et de sécurité nationale sont sur notre territoire, c'est de l'incompréhension totale. Et avant-hier, le 24 octobre, l'hécatombe à Tamou. Plusieurs orpailleurs qui cherchaient de l'or ont été massacrés par des hélicoptères parce qu'il y a eu une attaque au poste de police de Tamou. Jusque-là, nous n'arrivons pas à comprendre qui a massacré nos populations, qui a tué nos populations. C'est de cette même façon qu'il y a eu la tuerie de Terra où trois de nos jeunes ont été tués par la force Barkhane au passage du convoi. Donc tous ces faits nous poussent à dire que nous ne voulons pas de ces forces étrangères-là. Nous ne voulons pas de la force Barkhane. Nous ne voulons pas à ce qu'on vienne jouer le paternalisme chez nous, comme si la France est notre père et c'est la France qui nous dicte. Nous ne voulons pas de ça. Et c'est pour ça que nous sommes en train de battre. Aujourd'hui, Dieu merci au Mali, ils sont en train d'avoir leur souveraineté. Vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad. Nous avons décrié quand Macron est parti valider le pouvoir du fils de Déby. Et quand la population était sortie pour demander plus de démocratie, qu'ils puissent élire leurs dirigeants, aujourd'hui le fils de Déby s'est mis à massacrer la population tchadienne. Quelle est la différence entre ceux-là qu'on appelle terroristes et ce président? Mais pourtant, la France continue à soutenir. Donc, la politique française est juste une question d'intérêt. Et c'est ce que nous combattons. Juste, ils voulaient prendre nos ressources. Nous ne sommes pas contre la coopération. Que la coopération soit avec les Français, que ce soit avec les Russes, ou bien que ce soit avec les Chinois, ou bien les Turcs, nous voudrons qu'il y ait une coopération gagnant-gagnant. Nous avons des ressources. Ils ont besoin de ces ressources-là. Et les ressources-là aussi doivent profiter à nos populations. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire l'uranium qu'on extrait des champs de mes grands-parents puisse servir à alimenter en France des ampoules sur trois. Et qu'ici, chez nous, dans nos hôpitaux, il n'y a pas d'électricité. Et que chez nous, si ces hôpitaux-là existent même. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin en tant que citoyens pauvres nigériens? C'est juste nous avons besoin de la tranquillité, la paix, quand nous avons des enfants en âge d'aller à l'école, qu'ils puissent trouver des écoles pour fréquenter. Quand ces enfants tomberont malades, qu'ils puissent trouver un médecin pour se faire consulter. C'est tout ce qu'on cherche. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas. Et je dis bien, la France n'est pas seule. Parce qu'il y a des valets locaux, l'élite politique du Sahel, qui soutiennent effectivement les aspirations ou bien les intérêts français au détriment des intérêts de nos peuples.
Pourquoi protestez-vous contre la présence militaire française au Niger et au Sahel?
Barkhane est là après 10 ans, aucun résultat. Nous avons demandé qu'on puisse réfléchir sur cette coopération militaire. Parce que le fait que nos dirigeants, par exemple le président de la République du Niger, avait dit, sans Barkhane, le Niger est appelé à disparaître. Le Sahel est appelé à disparaître. Mais Barkhane est là bon sang pendant 10 ans. Mais nous n'avons pas de résultats. Aucun résultat. Quel terroriste a été tué? Quel chef terroriste a été tué? Est-ce que cela a empêché qu'on puisse continuer à nous attaquer? Est-ce que cela a empêché qu'on puisse continuer effectivement à endeuiller nos populations, à prélever l'impôt et à les faire déplacer? Donc, les résultats n'existent pas. Je me rappelle, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains étaient venus libérer la France, est-ce que cela a poussé? Quand ils les ont libérés, De Gaulle avait demandé le départ des Américains. Est-ce que cela a poussé les Américains à dire que les Français sont des anti-Américains? Mais aujourd'hui, Barkhane est là, sans aucun résultat, et nous demandons le départ de Barkhane. Les gens estiment que nous sommes des anti-Français. Non, nous ne sommes pas anti-Français. Mais nous aimons notre pays de la même façon que les Français eux-mêmes aiment leur pays. Nous aimons l'Afrique et nous allons nous battre contre tous ceux qui ne veulent pas du développement de l'Afrique. Avec les moyens que nous avons, nous allons les utiliser. Ce n'est pas une annulation de visa qui va nous empêcher de continuer ce combat. Nous allons faire ce combat-là parce que nous avons à cœur notre pays. Et nous pouvons faire ce combat avec tous les partenaires sérieux qui estiment qu'ils peuvent nous accompagner dans cette lutte-là. Nous l'avons toujours dit. Donc, il faudrait que les Français comprennent qu'ils se sont trompés d'époque. Ce n'est plus au Moyen-Âge. Ce n'est plus l'ère de l'esclavage a révolu. L'ère de la colonisation s'est révolue. Donc, nous sommes indépendants et nous aimerons être souverains sur nos sous-sols, sur nos richesses. Et voilà ce que nous demandons. Et c'est pour ça que la force Barkhane n'est pas la bienvenue chez nous.
Vous êtes bien sur les ondes de Spoutnik Afrique. Nous continuons en nous intéressant à la nouvelle donne géopolitique qui est en train de se mettre en place dans le monde. Celle-ci passerait notamment par les BRICS, constitués du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. C'est ce que prévoient en tout cas des analystes indépendants. Encore une dizaine d'États réfléchissent à faire partie de cette organisation économique. Parmi ceux-ci, on trouve des pays du continent africain dont l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria. Toutefois, une question se pose. Comment l'Afrique peut-elle se développer dans un monde multipolaire? Pour y répondre, Spoutnik Afrique a rencontré plusieurs personnalités africaines, à commencer par le militant panafricaniste Kémi Séba. Lui prône l'entrée des pays africains dans les BRICS. Kémi Séba est connu pour son engagement en faveur de la sortie du franc CFA et du départ des militaires français d'Afrique. Je vous invite à l'écouter. Bonjour Monsieur Séba, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Sergueï Lavrov a dit récemment que la Russie saluait que l'Afrique était en train de devenir l'un des centres du monde multipolaire. Quel est le rôle de l'Afrique dans ce nouveau monde?
Avant d'arriver au nouveau monde, il est important de dire que même dans l'ancien monde, c'était le centre de gravité du pouvoir. C'est pour ça que toutes les puissances coloniales venaient se servir dans les ressources, que ce soit humaines, via l'esclavage que ces puissances sont parties capturer, puis par la suite dans les ressources minières, qu'ils n'ont cessé de spiller depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce monde multipolaire, il y a un bouleversement, dans le sens où la nouvelle génération africaine, dont je fais partie d'une des, je pense, des voix les plus audibles, a décidé de prendre son destin en main et de refuser la domination émanant de l'Occident, et de refuser toute forme de domination pour s'assumer elle-même et accomplir son propre destin. Et cela va de pair avec la contestation je pense, d'un certain nombre de nations qui refusent l'hégémonie occidentale, qui refusent la dictature occidentale néolibérale de l'élite occidentale. Même le peuple, le prolétariat occidental n'est pas forcément d'accord avec la direction que leur élite est en train de prendre. Et cette contestation des peuples qui veulent protéger, préserver leur identité, qui veulent préserver le principe de l'enracinement, qui refusent le globalisme, le néolibéralisme, je pense que c'est la meilleure voie pour que l'on puisse se faire entendre. Donc on est aujourd'hui dans une guerre des mondes entre l'élite globaliste et les peuples souverainistes. Et je pense que l'Afrique dedans peut être là aussi un nouveau centre de gravité. Et en ce sens-là, je suis d'accord avec M. Labrov.
Nous observons actuellement le départ de militaires français de plusieurs pays africains. Comment expliquez-vous le mécontentement des populations locales de ces missions ?
Déjà, notre organisation travaille depuis des années sur ce terrain. D'abord par une démarche d'ingénierie sociale à travers les masses médias en Afrique, puisque j'ai la possibilité d'intervenir dans la plupart des télés de masse en Afrique. Donc on a fait un travail d'éducation politique en rappelant aux gens ce qu'était le principe du néocolonialisme. Si on enlève cet outil qui est la télévision, je pense qu'on passe à côté du sujet. Le fait qu'on puisse passer dans les télévisions africaines a changé énormément la donne en Afrique. À la suite de cela, une fois qu'on a estimé que les populations étaient suffisamment matures, et idéologiquement du moins étaient suffisamment informées, on a commencé les mobilisations de masse sur les questions donc de dénonciation de la France-Afrique contre le franc CFA, contre les bases militaires. Et ça a abouti à ce que l'on voit aujourd'hui. Mais c'est un travail qui date de au moins 10 ans. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les mobilisations que vous voyez aujourd'hui sont le fruit d'un long travail idéologique qui a été effectué par les nôtres. C'est une guerre idéologique, une guerre d'idées. Ce qui me fait sourire, c'est que souvent les services ou les autorités occidentales pensent que c'est une guerre des réseaux sociaux. Ils n'ont pas compris qu'on a commencé cette guerre bien longtemps avant que les réseaux sociaux explosent. C'est les médias traditionnels en Afrique qui nous ont permis de passer le message. Les réseaux sociaux n'ont fait qu'accompagner.
Lors des manifestations, on aperçoit de plus en plus souvent des drapeaux russes brandis. Pourquoi une telle tendance, selon vous ?
Il ne faut pas que les Russes pensent que parce que le drapeau russe est agité, cela signifie que l'Afrique voit la Russie comme son messie. Ce n'est pas vrai. Mais il y a une sorte de contestation, de provocation des masses africaines, parce qu'ils savent que la Russie est un pays aujourd'hui détesté par l'élite occidentale. On aurait très bien pu prendre n'importe quel drapeau. Si le drapeau noir était symbole de contestation, ils auraient bien pu agiter le drapeau noir. Il se trouve que comme la Russie, à l'heure actuelle, est devenu un petit peu au même niveau que l'Iran en termes de diabolisation, les Africains disent qu'ils ne veulent plus de l'Occident comme partenaire, et si partenaire il doit y avoir, ils préfèrent la Russie. Mais cela ne signifie pas, c'est très important que vous notiez cela, que nous pensons que la Russie est notre messie. Nous ne le pensons pas. Nous pensons que nous sommes les messies de nous-mêmes. Mais en effet, si partenariat il doit y avoir, on veut des partenariats avec des nations qui sont opposées à l'hégémonie occidentale. La Russie en fait partie, elle n'est pas la seule. Il y a d'autres pays, hein, Venezuela, Cuba, la Chine, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur le partenariat avec la Chine en termes d'analyse critique. La Chine, la Turquie, voilà, cela fait partie en effet du schéma de contestation. L'Iran a ses problèmes que l'Iran doit vraiment régler sur la question des femmes et du droit d'elles-mêmes à disposer de leur propre corps, etc. Donc voilà, même si cette révolution, à mon sens, est aussi récupérée par l'élite néolibérale occidentale, il faut qu'on puisse le dire, c'est une révolution de couleur qu'ils sont en train d'essayer de faire. Mais l'Iran aussi, dans sa contestation, a évidemment son rôle à jouer, parce que c'est l'un des régimes qui conteste et qui combat le plus l'arrogance et l'impérialisme occidental.
Les responsables français ont tenté à plusieurs reprises de condamner la Russie devant les Africains. Quel but recherchait-il en utilisant cette rhétorique ?
D'éloigner l'Afrique de la Russie, et que le monde multipolaire et la connexion entre les Africains et les Russes, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date du partenariat entre l'Union soviétique et puis les forces indépendantistes africaines, que ce partenariat puisse être rompu. Nous, ce n'est pas ce que l'Occident va dire qui va déterminer si on tisse des partenariats solides avec les Russes ou pas. Ce sera le comportement des Russes vis-à-vis de nous. Si les Russes adoptent, il faut vraiment le noter, adoptent la même logique que les Occidentaux, que le gouvernement français a adopté vis-à-vis de nous, je peux vous faire ce serment les yeux dans les yeux qu'on les combattra. Si on est capable de combattre la France aujourd'hui, parce que le gouvernement français est tellement arrogant et tellement négrophobe qu'il pense que les contestations qu'il y a aujourd'hui, c'est juste le fruit de manipulations russes autres qui agitent, qui créent un sentiment anti-français. C'est-à-dire qu'ils ont tellement cette conviction que tout ce qu'ils font est bon, qu'ils ne sont pas capables d'accepter que les colonisés veulent à un moment donné se révolter.
Vous parlez d'économie, justement. De nombreux pays africains utilisent encore le franc CFA. Pensez-vous qu'il est possible d'en sortir ? ou est-il encore trop tôt pour cela ?
Ce combat, on le paye au péril de nos vies, de nos libertés. J'ai été incarcéré pour ça, j'ai été expulsé de plusieurs pays pour ça. Je pense qu'on est plus proche de la ligne d'arrivée que la ligne de départ, mais il reste encore beaucoup à faire. Un pays, sortir seul du franc CFA, c'est compliqué. Il faut que ce soit une décision collective. Et il y a deux camps, il y a le camp anglophone et le camp francophone. Le camp francophone, au sein de l'UMOA en Afrique de l'Ouest notamment, veut transformer le franc CFA en écho, mais un écho qui sera toujours, qui aura toujours un taux de parité fixe aligné à l'euro, alors que le camp anglophone veut un taux de change flexible.
Ouais.
Vous comprenez? De telle sorte que on puisse être adapté aux fluctuations globales de l'économie, de manière générale. Donc, nous, c'est notre option, la deuxième option que je viens de citer. Taux de change flexible, mais c'est un combat qui doit être mené. Nous, on a fait notre part, les élites doivent mener la leur. Si on, il y a eu le Covid qui a stoppé aussi, parce qu'il devait y avoir les critères de convergence qui devaient être réunis par la plupart des pays de la CEDEAO. On verra si les pays prennent la responsabilité. On leur laisse encore le temps, parce qu'il y a quand même beaucoup de bouleversements, beaucoup de crises qui sont présentes. Si on voit qu'elles continuent à être dans du dilatoire, bien on ressortira les gens dans la rue. On l'a fait, on le refera. Là, actuellement, les rues, on les mobilise pour dénoncer les bases militaires, mais on peut toujours élargir le débat.
C'était Kémi Séba, militant panafricaniste. Vous êtes toujours sur les ondes de Spoutnik Afrique. Alors que l'émergence d'un monde multipolaire se met en place, une question se pose. Quelle influence aura-t-elle sur la coopération interétatique ? Joseph Kinundu Mukombo, conseiller économique de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Moscou, nous dresse les grandes lignes des changements à venir dans Zone de Contact.
Une bonne partie des pays africains fait partie du mouvement des non-alignés, c'est-à-dire le mouvement des pays qui ne veulent pas qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire, mais qui sont ouverts à la collaboration avec tous les pays et qui veulent collaborer avec eux. L'essentiel étant de contribuer au développement de notre continent. Donc, je pense que cette ouverture est une voie irréversible. On ne peut aller que vers le multipolaire pour que chaque État souverain puisse choisir librement la collaboration qu'il souhaite avec les autres partenaires. Je pense que l'Afrique est sur ce chemin et plusieurs groupes, le groupe des 77, le groupe des non-alignés, tout cela montre clairement que aujourd'hui l'Afrique veut choisir sa voie et non pas une voie qui lui soit imposée.
L'Afrique est de plus en plus intéressée par le format des BRICS. Certains pays africains ont manifesté leur volonté de rejoindre ce format. Quels avantages pourraient en tirer ceux qui souhaitent intégrer les BRICS ? Êtes-vous favorable à son élargissement ?
C'est un format alternatif, c'est-à-dire qu'il faut quand même, pour concrétiser cet aspect multipolaire du monde, il faut que les BRICS puissent peser de tout leur poids sur les affaires du monde. Et une assiette beaucoup plus large est toujours importante pour que ensemble on regarde ce qui est bon pour nos pays, parce que ce qui est bon pour nos pays, c'est nous-mêmes qui sommes censés le savoir. Et donc, je pense que c'est un mouvement qui va se renforcer, tout comme d'ailleurs la réforme du Conseil de sécurité. Vous savez que il y a un débat là-dessus. L'ONU a été créée il y a de longues années et le monde a changé. La dynamique internationale a changé. Il faut également que les institutions évoluent avec la dynamique actuelle. Il est important d'avoir beaucoup d'acteurs qui sont en mesure de peser sur la scène internationale pour que l'Afrique trouve une place plus importante dans la régulation des affaires internationales.
C'était Joseph Kinundu Mukombo, conseiller économique de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Moscou. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Zone de Contact, présentée par Spoutnik Afrique. Nous nous rendons à Moscou, où une délégation du Zimbabwe a signé début novembre un accord. Celui-ci contribue à la création sur le sol zimbabwéen du Musée de la Libération africaine. Il couvrira l'histoire de la lutte des peuples africains pour leur indépendance. Pourquoi une telle coopération entre l'Afrique et la Russie ? Kwame Muzavazi, directeur de l'Institut des études africaines et membre de la délégation, a expliqué au micro de Spoutnik Afrique les raisons de ce succès.
La solidarité entre la Russie et l'Afrique
est née de la douleur et de la lutte. Lorsque vous éprouvez de la douleur ensemble, luttez ensemble et qu'ensuite vous gagnez ensemble, l'amitié est permanente, elle ne peut être brisée. Et vous savez que cette année aux Nations Unies, l'Amérique et l'Europe ont essayé d'imposer des sanctions à la Russie. Mais l'Afrique, plus que toute autre région, est restée aux côtés de la Russie, donc l'amitié est forte. C'est un partenariat d'égal à égal où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Le rôle de l'Afrique est d'apporter son expérience. L'Afrique est la civilisation la plus ancienne. Nous venons tous d'Afrique, nous arrivons donc dans ce nouveau monde multilatéral avec beaucoup d'expérience.
En ce qui concerne le musée de la libération de l'Afrique, Kwame Muzavazi a donné des détails sur les participants.
Trois groupes de pays ont participé. Dans le premier groupe, nous avons des pays qui ont obtenu leurs indépendances par les armes. Dans ce groupe, on a des pays comme le Zimbabwe, le Mozambique, l'Angola, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Le second groupe concerne des pays qui se sont battus à travers des voies diplomatiques et politiques, dont la Zambie, la Tanzanie et le Ghana. Le troisième groupe inclut des pays qui sont non africains. Il s'agit de la Russie, la Chine et Cuba. Tous ces pays sont impliqués dans ce projet.
C'est l'émission Zone de Contact et moi, Anthony Lefebvre, je vous accompagne aujourd'hui. Nous venons de donner la parole à notre intervenant du Zimbabwe. Et on se penchera ensuite sur le fléau qui est la drogue qui secoue le monde, y compris les pays africains. De retour sur Zone de Contact, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On prend tout de suite la direction de la Côte d'Ivoire. L'association Foyer du Bonheur lutte contre la toxicomanie en Côte d'Ivoire en aidant les victimes de ce fléau à se réinsérer par l'apprentissage des métiers. D'anciens toxicomanes nous expliquent tout de suite dans ce reportage comment ils sont tombés dans ce terrible engrenage.
Bonjour Monsieur Yahi, je précise que vous êtes le secrétaire général de l'association Foyer du Bonheur.
C'est ça.
Oui. Pouvez-nous brièvement présenter votre association? Que faites-vous, Monsieur Yahi?
Moi, je suis Yahi Serge, le secrétaire général du Foyer du Bonheur. J'ai présenté les personnes avec qui je suis d'abord, parce que vraiment c'est un honneur pour nous de pouvoir participer à cette interview. Je suis d'abord avec Abenu Jean Roland. Qui va se présenter d'abord.
Hello, je suis Abenou Jean-Roland, chargé des programmes et du suivi et évaluation du foyer du bonheur. Ensuite,
allô, bonjour.
Oui, allô, je vous écoute. Allez-y.
Ok, directeur exécutif du foyer du bonheur.
Ok, bien noté.
Okay, d'accord. Le foyer du bonheur est une association communautaire et identitaire. C'est-à-dire, au sein du foyer du bonheur, il y a des ex-usagers et il y a des usagers encore qui sont les EP. Et nous apportons aide et assistance aux personnes hautement vulnérables.
Ok. Quand vous parlez d'usagers, vous parlez de quoi, au fait?
Quand nous parlons d'ID,
oui.
Nous parlons d'usagers de drogue.
Des personnes qui consomment la drogue, c'est exact?
Oui, c'est ça, des personnes qui consomment la drogue.
Ok. Et comment se nomme votre président ou votre présidente, au fait?
D'abord, je vais vous faire un peu l'histoire du foyer du bonheur.
Non, on va très rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps, en fait. Il y a d'autres questions qui suivent.
D'accord, le président MMM, notre premier président, c'est Feu Guy Boabwe, qui est décédé. Et nous sommes à notre quatrième président, qui est Aruna, Ouattara Aruna.
Ok, bien noté. Ok. Au fait, M. Yahi, ces derniers mois, nous avons assisté au démantèlement de plusieurs fumoirs et ghettoirs. Et ghetto, comme vous appelez, dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Pouvez-nous faire l'état des lieux de la consommation de la drogue dans votre localité?
Dans notre localité, par rapport à la consommation de la drogue, il y a toutes sortes de catégories de personnes, toutes tranches d'âge, hommes, femmes, adultes, vieux, jeunes, adolescents, issus de différents milieux sociaux, riches, pauvres, travailleurs, sans emploi, étudiants, élèves, forces de l'ordre, médecins, etc., j'en passe, qui se retrouvent dans les endroits, comme on appelle les ghettos. Et comment vous voyez parler de démantèlement de plusieurs fumoirs? Vous savez, comme on le dit, hein, la politique de la drogue n'a jamais pu aboutir à éradiquer tous ces fléaux-là. Dieu voit qu'on a cassé plusieurs fumoirs, mais elle repousse encore.
Donc, est-ce que votre association a constaté une augmentation des personnes qui consomment la drogue ces derniers mois?
Oui. Dans ces derniers mois, on va vous dire, on a fait un travail avec Médecins du Monde par rapport à aux personnes qui consomment la drogue à Abidjan. Au mois de mars, on avait 6 400 personnes. Aujourd'hui, on estime les personnes à 7 600 consommateurs dans la zone d'Abidjan.
6 000, c'était à quelle date, au fait? 6 460, c'était à quelle date?
Les 6 400, c'était au début du mois de 2021.
Oui.
Au début du mois de 2021, quand on a fait notre statistique, il y avait 6 400 consommateurs dans la zone d'Abidjan. Tout dernièrement, on a fait un rapport avec Médecins du Monde, on a 7 000. Donc, je dis que la plupart des adolescents aujourd'hui rentrent dans la consommation de drogue, des élèves, comme on le dit, sont dans la consommation de drogue. Donc, vous voyez que ça augmente.
Oui. Pouvez-vous donner les causes de cette augmentation? Pourquoi ça augmente, M. Yahi?
Bon, les causes de cette augmentation, je vais vous passer mon sujet, Valata, il va répondre à cette question.
OK. Donc, je peux reprendre la question?
Bien sûr.
Pourquoi cette augmentation? Quelles sont les causes, au fait? Pourquoi la jeunesse s'adonne aujourd'hui à la drogue?
Bon, d'abord, dans un premier temps, la politique de la guerre contre la drogue, la destruction des fumoirs. Lorsqu'un fumoir est détruit, il y a, comme on a coutume de le dire, il y a 10 autres fumoirs qui poussent. Parce que lorsqu'un fumoir où plusieurs personnes viennent fréquenter et qu'il est détruit, c'est plusieurs petits fumoirs qui poussent. Donc, ça fait que la drogue même va, elle se retrouve au sein de la population même, surtout des populations vulnérables. Ce qui fait que les enfants, les élèves, les étudiants, vraiment pratiquement tout le monde est confronté à ça. Les gens ont l'habitude de voir ça comme quotidien.
Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc vous continuez à répondre ou vous allez remettre à M. Yahi?
Oui, nous continuons.
Ok, donc on va revenir sur les consommateurs. Quelles sont les conséquences de la drogue sur les consommateurs que vous avez pu relever?
Bon, les conséquences de la drogue sur les consommateurs que nous avons pu relever, vraiment... au niveau santé, nous avons pu relever d'importants besoins en termes de santé. Parce que les études même ont mené des taux de prévalence supérieurs à ceux de la population générale même, dans la communauté des idées. Lorsqu'on parle de la tuberculose ou du VIH-SIDA, on a des taux de prévalence vraiment supérieurs à ceux de la population générale, d'après les dernières études qui ont été menées. Et donc, on dit que la drogue a vraiment des conséquences désastreuses au niveau de la santé sur les consommateurs. Oh. Parce que vous savez, c'est des endroits, les sites de consommation sont des endroits un peu restreints avec du monde. Donc, les échanges vraiment facilitent la circulation de certaines maladies contagieuses.
Okay. Voilà. Donc, quelles sont les conséquences de ce fléau pour la société ivoirienne dans ce cas?
Pour la société ivoirienne, les conséquences de ce fléau sur la société ivoirienne, vous savez, comme mon secrétaire général le disait tout à l'heure, on a tout point de personnes, des élèves, des étudiants. Et donc, ces enfants-là qui sont ici des familles riches, lorsqu'ils viennent dans ces sites qui sont contaminés par des maladies et qui vous imaginez qu'ils doivent transporter ces maladies-là pour les envoyer chez eux à domicile avec leurs parents, leurs papas, leurs mamans. Et bon, vous voyez que c'est une chaîne de maladies qui s'est créée. Donc vraiment, les conséquences ne sont pas vraiment... pour la société ivoirienne. La propagation des maladies est vraiment dangereuse pour la société.
Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Quelles sont les actions menées par votre association Foyer du Bonheur pour prendre en charge les toxicomanes et lutter contre ce fléau?
Ok, c'est Yahi encore qui répond à cette question.
Ok, je vous écoute.
Bon, les actions que nous menons, nous-mêmes, nous avons des éléments qu'on appelle les éducateurs paix. Nous avons des éducateurs paix dans chaque site, dans chaque ghetto. Ceux-là, ils informent les usagers de drogue. En cas de maladie, ils les dirigent vers les dispensaires. Il y a une prise en charge. Il y a un hôpital d'addictologie qui s'occupe de ce qu'on appelle la CASA. Nous les envoyons vers ces personnes-là. Oui, nous sommes là pour améliorer l'accès au dépistage, aux soins, pour favoriser les prises en charge sanitaires et des actions de plaidoyer, toujours dans le respect des droits des consommateurs.
Ok, ouais. Je vais revenir sur une question rapidement. Quels sont les différents types de drogues qui sont utilisées dans les fumoirs dont vous parlez?
Les différents types de drogues?
Oui.
Il y a l'héroïne, cocaïne, sous forme de crack.
Oui.
Et il y a marijuana, cannabis. Et il y a certains... Bon, dans les fumoirs, c'est rare de voir les comprimés, les silences existent.
Est-ce que ce genre de drogue agissent sur la santé mentale, au fait, des personnes qui consomment?
Oui, ça agit sur la santé mentale des personnes qui consomment. Vous voyez, par exemple, un médecin qui consomme la drogue, la première fois, il fume une fois, deuxième fois, il fume deux tapes, quatrième fois, il est devenu junkie. Donc, il ne va plus au boulot, il perd son emploi. Quelqu'un qui avait une voiture, qui avait une famille, qui perd son emploi, vous voyez que ça devient problématique.
Donc après, il peut devenir même fou, c'est ça?
C'est ça, il peut devenir même fou. Même si tu vois même quelqu'un, même souvent, tu as pensé qu'il est fou, mais c'est l'intellectuel qui est là. C'est quelqu'un...
Pardon. Oui, je vous écoute.
C'est la drogue qui transforme en fait l'usager. Oui. C'est pour ça qu'il y a une politique que nous avons prise en charge qui fonctionne pour ceux-là. Avec tout consommateur de crack est malade.
Ok, donc vu tous ces cas dont vous venez d'évoquer, quelles sont les solutions à long terme, selon vous, pour éradiquer ce phénomène? Une solution à long terme. Pour qu'on n'ait plus de fumoirs, pour qu'on n'ait plus de ghettos, pour qu'on n'ait plus vraiment de tous ces malades dans nos rues.
D'accord, je vais vous passer mon sujet, Valérie, il va répondre à la question.
Allô, moi c'est Daniel Grant, directeur exécutif. Je vais répondre à la question.
Oui.
Je dirais que nous ne faisons pas l'éradication en sens, je peux dire en sens propre du thème. On fait la réduction de risque. Vous allez d'abord signifier ça et le suivi va maintenant vous éclaircir ce dessus.
Allô.
Allô.
Allô. Oui.
Donc là, je vais revenir un peu sur la question. Donc je disais que quelle est la solution à long terme que vous voyez, pas comment on appelle ça, que vous pouvez peut-être proposer même aux autorités une solution à long terme pour pouvoir vraiment, même pas forcément éradiquer, mais quand même réduire ce phénomène vraiment à un niveau vraiment très bas.
D'accord. Bon, comme solution à long terme que nous voyons, vous savez, la réduction des risques a déjà fait ses preuves sur le terrain. Parce que les éléments même du foyer du bonheur sont les plus produits de la réduction des risques. Et parce que la majorité de certains éléments du foyer du bonheur ont été puisés dans les rues, dans les fumoirs. Et des activités de réduction des risques, de renforcement des capacités, de formation, d'abord pour pouvoir aller vers la cible même. C'est un programme qui a vraiment apporté à ces usagers de drogue-là, ce qui a permis d'avoir une certaine insertion au niveau social. Donc, ce que nous proposons vraiment, c'est la réinsertion suivie d'activités génératrices de revenus, couplée aux activités de réduction des risques. Vraiment, on est sûr de pouvoir avoir des éléments pleins de conscience, des idées, des usagers vraiment conscients de leur avenir.
Oui, merci beaucoup.
Je vais ajouter un point sur l'éradication de la consommation de drogue dans notre pays.
Oui.
Vous savez, nous sommes une association qui est affiliée à des sociétés de communication. Donc, quand quelqu'un décide d'arrêter la consommation, nous l'envoyons dans un centre de désintoxication où il fait sa cure. Après cela, nous le conduisons dans une société. Nous négocions à ce qu'il apprenne un métier. Et il y a les témoignages de plusieurs personnes comme ça qui sont jusqu'à aujourd'hui dans les sociétés, des anciens usagers de drogue qui travaillent dans les sociétés comme Indigo, DZSU. Ouais. On fait des efforts pour les occuper. Un usager de drogue, c'est l'oisivité qui fait qu'il persiste dans la drogue. Sans la réinsertion, je pense que c'est la meilleure solution pour un usager de drogue. Voilà.
Okay. D'arrêter la consommation. Donc là, je veux vous demander, est-ce que vous avez une ou deux personnes qui étaient consommatrices de la drogue pour qu'ils nous relatent leurs histoires, si possible?
Actuellement, je vais préciser quelque chose que je n'ai pas précisé au départ. Actuellement, nous sommes dans un fumoir.
Oui, dans un fumoir, ok.
Nous sommes dans un fumoir à Makori, à Mambo, en bas du pont.
Oui.
Et il y a une dame ici. Bon, on va couvrir son nom, on ne va pas donner son nom.
Oui.
Mais à qui vous pouvez poser des questions,
y a un monsieur aussi.
Oui.
Qui est ici. On va lui donner des sobriquets.
Ok.
Il y a Jonette. Et
okay.
Puis il y a, on va dire, Princesse.
Ok, ok. Quand avez-vous commencé à consommer la drogue?
Ça fait maintenant 20 ans.
20 ans. Et ouais. Quel genre de drogue vous consommez?
C'est la cocaïne et puis off.
Off. Et actuellement, vous consommez encore?
Oui, oui.
Ok. Pouvez-vous vraiment nous décrire votre histoire personnelle? Qu'est-ce qui vous a poussé dans la drogue? Comment s'est déroulée votre journée? Hein? Quels sont les faits qui vous ont marqué? Voilà. Vous pouvez peut-être nous expliquer votre histoire.
C'est quelqu'un qui m'a mis là-dedans.
Et...
hein, c'est mon ami. Alors, il ne dit pas, il est mort. C'est lui qui m'a mis là-dedans.
Et vous pouvez expliquer comment ça s'est passé? Comment il vous a mis dedans et comment les choses se sont passées?
Non, le jour-là, on est parti ensemble dans le ghetto. Donc, il a payé ça. Je lui ai demandé c'est quelque chose. Il dit, c'est la cocaïne. Et lui, il va me faire goûter, voir. Moi aussi, j'ai accepté. J'ai goûté le premier jour. Depuis ce jour-là, je continue vivant comme je peux.
Et aujourd'hui, comment se déroule votre vie? Comment vous vivez?
Ma vie est gâtée dans ma main. Alors là, non, ça me fatigue. Mais. Je cherche à me sortir de là, mais ce n'est pas comment faire. Je me fatigue. Mais. Quand je vais laisser, je n'arrive pas à dormir dans la nuit. Ça me fatigue.
Et comment se déroule votre journée? Que faites-vous en général?
Tu dis?
Comment se déroule votre journée? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites?
Bon, je fais rien ici, là, je me raquette, puis je viens, je paye, je fume. Et puis je fais de la journée.
Ok, merci beaucoup pour votre témoignage. Je voulais vous demander, quand avez-vous commencé à fumer la drogue?
Ça fait maintenant 26 ans.
26 ans. Vous consommez encore la drogue?
Oui.
Et quel genre de drogue vous consommez?
La cocaïne.
Et c'est tout à part, il y a d'autres types de drogues?
Non, c'est la cocaïne que je consomme.
Ok. Pouvez-vous nous décrire votre histoire personnelle? Qu'est-ce qui vous a poussé à consommer la drogue? Comment s'est déroulée votre journée? Quels sont les faits vraiment qui vous ont marqué dans ce milieu?
Ok. C'est un ami qui est venu voir. Il fumait le chef indien avant, cannabis. Donc, il est venu voir de la cocaïne au ghetto. On allait pas acheter le cannabis, l'acheter pour sa cocaïne. Moi, j'ai goûté voir comment c'est. On a ça, j'ai goûté. Ça m'a plu, je suis un peu là comme ça. Je suis revenu, ça fait 6 ans maintenant.
Ok. En ce que je sache, la cocaïne coûte cher. La cocaïne coûte cher. Et comment vous faites pour vous procurer la cocaïne? Vous travaillez, vous avez de l'argent?
Moi, je suis un ouvrier. Comment? J'ai suffisamment d'argent pour ça. Et je travaille beaucoup. Et maintenant, la dégâtation, les services sont complètement.
Donc actuellement, vous travaillez?
Non, je suis au ghetto.
Vous êtes au ghetto, mais comment vous faites pour fumer? Où vous enlevez la drogue? Vous avez de l'argent?
Comme je dis, mais nous avons fait des petits trucs pour les vendre, venir fumer. Fait des petits trucs pour les vendre, venir consommer. Autrement.
Ok. Et là, vous comptez arrêter de fumer?
Non, je compte arrêter de fumer. C'est la possibilité, déjà. C'est ce bon, déjà.
Ok, donc je tiens à vous remercier pour votre témoignage. Merci beaucoup.
Merci à l'association Foyer du Bonheur qui lutte en Côte d'Ivoire contre l'addiction et aide les malades. Chers auditeurs, zone de contact, c'est fini pour aujourd'hui. Rassurez-vous, nous restons en contact et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. D'ici là, portez-vous bien.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.